Si vous êtes au volant de votre voiture ou dans la rue et qu'un agent de police vous demande de décliner votre identité, vous allez lui présenter une pièce d'identité, par exemple une carte nationale d'identité ou votre permis de conduire, et il va savoir qui vous êtes. C'est votre identité. Mais notre identité, est-ce seulement ce qui est inscrit ici, sur cette carte? Pour réfléchir à la notion d'identité, il nous faut remonter au commencement. Dieu a créé le monde, ses créatures et les êtres humains. Dieu vit que tout cela était bon. Et même au soir du dernier jour de la création, il trouva que c'était très bon. Et l'être humain vivait alors dans une relation avec son Créateur, une relation de communion totale, une relation d'amour, une relation harmonieuse, parfaite avec Dieu, mais aussi plus largement une harmonie parfaite avec la création de Dieu. Et l'identité de l'être humain découlait de cette relation qu'il entretenait avec son Créateur. Nous connaissons la suite de l'histoire. Les choses se sont gâtées avec l'entrée du péché dans le monde. Cela nous est relaté dans Genèse au chapitre 3, avec le récit de la tentation, qui met en évidence que l'être humain a commencé à douter de la bonté, de l'amour de Dieu. Et depuis l'entrée du péché dans le monde, l'être humain s'est mis en quête d'identité. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Et puisque je suis là, quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mon identité dans tout cela? L'être humain est alors parti en quête d'identité. Et c'est normal parce que la relation avec son Créateur ayant été coupée du fait du péché, il fallait bien recréer du lien avec quelque chose. Mais l'être humain s'est mis à penser que son identité pouvait être trouvée ailleurs que dans la relation avec son Créateur. Il s'est mis à chercher ce lien et son identité dans les choses de ce monde. Et malheureusement, cette quête d'identité ne fait que de mener dans une impasse parce que le regard de l'être humain n'est pas porté au bon endroit. Dans quoi recherches-tu ton identité? Et une fois n'est pas coutume, ce matin, je vais utiliser assez souvent le tutoiement, le ton de l'interpellation, du questionnement. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une et ou l'autre chose que je vais évoquer. Et si tel est le cas, il ne s'agit pas de le prendre personnellement comme un reproche, loin de moi cette intention. Je ne cherche pas à pointer du doigt quelque chose chez toi, mais bien plutôt à t'inviter à te laisser interpeller, questionner. Où est-ce que ta quête d'identité t'a mené dans ta vie et peut-être même te mène encore aujourd'hui? J'ai tenté de résumer cette quête d'identité en présentant 4 écueils. D'abord, 3 écueils qui relèvent d'une recherche personnelle, d'une recherche active et personnelle. Et puis, pour terminer, un écueil qui relève presque ce qu'on pourrait dire une conséquence. J'y viendrai tout à l'heure. Premier écueil, notre recherche d'identité dans l'acceptation, dans l'approbation de l'autre. Bon nombre de personnes, sinon toutes, ressentent le besoin d'être aimées, le besoin d'être acceptées par les autres et d'être acceptées telles que je suis, telles que cette personne est. Il peut arriver que cette recherche de notre identité dans le regard des autres soit motivée par un manque d'affection que l'on a pu ressentir dans un moment ou un autre de notre vie, peut-être même parfois de la part de nos propres parents, qui ne nous ont pas donné l'amour que nous aurions souhaité ou pas de la manière dont nous aurions souhaité. C'est peut-être une réalité, c'est peut-être un ressenti, ça ne veut pas nécessairement dire que c'était le cas, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on a perçu comme tel. Et ça fait avancer dans la vie avec ce sentiment d'avoir été rejeté, d'avoir manqué d'amour. Et ça conduit à cette recherche de l'acceptation et de l'approbation de l'autre, des autres. L'être humain a besoin d'être accepté, il a besoin d'être reconnu. Le regard de ceux qui l'entourent est important, au point que ça le définit dans son identité. Ce que nous sommes compte. Est-ce que je suis aimé tel que je suis ? Cette quête conduit souvent à rechercher, à être accepté dans son apparence physique. Parce qu'on se dit, si je suis accepté dans mon paraître, dans mon apparence, dans mon physique, alors je serai accepté tel que je suis. Et je pense particulièrement à la jeunesse aujourd'hui, pour qui il y a une réelle quête de l'identité dans l'apparence physique. Il faut être comme les autres. Il faut être dans la mode. Il faut être dans le move. Et bon nombre de personnes font tout pour obtenir cette approbation de la part des autres, et en particulier dans le domaine du paraître, du physique. Peut-être que tu es une personne qui est très attachée à ton apparence. Tu vas prendre beaucoup de temps pour te préparer le matin. Tu ne pars pas de chez toi sans ton miroir. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de miroir, c'est le téléphone. Et puis, pour voir si ta coiffure ou ton maquillage ne te fait pas défaut. Peut-être que l'image que les autres vont renvoyer de toi est particulièrement importante pour toi. Peut-être que tu as du mal à... Tu es une personne qui a du mal à recevoir des critiques. Des critiques, j'entends, des critiques qui sont faites avec constructivité, qui sont faites pour ton bien. Mais parce que tu recherches justement ton identité et ta valeur dans le regard des autres, tu attends d'eux uniquement des choses qui vont te mettre en valeur. Mais de grâce, surtout pas de critiques. Ne recherchons pas notre identité dans le regard des autres, dans ce que les autres peuvent dire de nous, que ce soit à l'église ou ailleurs. Apprenons à nous voir avec le regard de Dieu, le regard que Dieu porte sur nous. Dieu a un regard d'amour à notre égard, d'une intensité telle que notre Père terrestre ne pourra jamais nous donner un amour qui dépasse tout entendement. Le monde a des critères de mode, de valeur qui vont changer avec le temps. C'est le consensus populaire qui va définir à telle et telle période de la vie comment il faut être à la page, à la mode, etc. Par contre, Dieu t'aime. Non pas parce que tu répondrais à un quelconque critère de beauté ou d'intelligence ou que sais-je, mais il t'aime parce qu'il a choisi de t'aimer. Un peu comme cela ressort dans ce passage de Éphésiens, chapitre 1, les versets 4 à 6. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous n'étions pas encore nés. Nous n'avions pas fait encore quoi que ce soit que Dieu nous avait choisis déjà par amour. Le monde va octroyer son amour que si nous le méritons, et il va le retirer aussitôt le jour où on ne le méritera plus, selon les critères bien humains et aussi teintés, marqués par le péché. Mais en Jésus-Christ, nous sommes aimés d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime. Apprenons à nous voir comme Dieu nous voit et non pas comme le monde nous voit avec l'image que le monde renvoie de nous-mêmes. C'est un premier écueil, notre recherche d'identité dans l'amour, dans l'acceptation et l'approbation de l'autre. Ça n'a pas l'air de marcher la télécommande, c'est curieux. Peut-être si tu cliques sur le diapo pour me redonner la main. Hop, non, voilà. Voilà. On va y arriver. Merci, c'est bon. Un deuxième écueil, c'est notre recherche d'identité dans le regard de la société. C'est la recherche de notre identité dans le domaine de l'acceptation, mais davantage cette fois-ci sur le plan de ce que nous sommes intérieurement, dans notre fort intérieur. Un bon nombre de personnes ressentent le besoin de pouvoir s'identifier à quelqu'un, à quelque chose, le besoin d'être quelqu'un d'important, d'avoir un statut dans la société, un rôle, une place, et du coup d'être amené à se poser la question « Est-ce que je suis important pour les autres ?» Est-ce que j'apporte ma pierre, ma contribution à la société? Peut-être tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans tes ou ton réseau relationnel, que ce soit à l'église ou ailleurs. Peut-être tu as l'impression qu'on te regarde différemment, parce que tu viens d'une autre culture, parce que tu n'es pas du même niveau social que les autres personnes dans le groupe, ce groupe auquel tu cherches à t'identifier, parce que tu n'es pas comme les autres. Peut-être que tu vis dans la tension entre rester dans le groupe ou bien essayer de finalement trouver un autre groupe de relations ailleurs dans lequel tu te sentiras peut-être un peu plus en phase. Mais tu vis dans cette tension. Est-ce que je dois rester, partir, partir, rester ? Et là aussi, le regard que Jésus nous porte peut nous aider à voir les choses autrement. Si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, ta foi en Jésus-Christ, eh bien tu as une nouvelle identité qui transcende tout le reste. L'apôtre Paul dit ceci en Galates chapitre 3, versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est notre identité. Dans l'Église de Jésus-Christ, qui est composée de personnes qui viennent de toute nation, de tout peuple, de toute langue, nous restons hommes, femmes, riches, pauvres, japonais, australiens, etc., etc. Mais ces différentes identités, elles sont transcendées par cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ, que nous recevons à notre conversion, hein, le jour de notre conversion, nous endossons cette nouvelle identité, nous revêtons Christ, comme dit le texte ici, et ça vient primer sur tout le reste. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de conflits qui sont liés à des différences. Mais Jésus ne veut pas de cela dans son Église. Toute la beauté de l'Église consiste à réunir, à unir et à faire marcher ensemble toute une diversité de personnes avec des cultures différentes, des statuts sociaux différents, des arrière-plans différents. Point de suspension, point de suspension. Et je trouve super de nous voir ici tous ensemble ce matin. C'est un miracle. C'est Jésus-Christ qui permet qu'on soit là ce matin, alors que nous venons de milieux complètement différents, d'endroits, d'arrière-plans complètement différents. C'est le miracle que Jésus a opéré pour constituer une nouvelle humanité que nous formons en lui. Et si tu luttes avec ces pensées de rejet de ce que tu es dans ta personne, dans ta personnalité. Souviens-toi de cette nouvelle identité que tu as en Jésus-Christ, que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Peut-être que tu es de ceux qui regardent ton frère ou ta sœur différemment, sous prétexte qu'il n'est pas comme toi. Alors à ce moment-là, souviens-toi d'où tu as été pris. Souviens-toi qu'il a fallu le même sacrifice de Jésus pour sauver ton frère ou ta sœur en Christ que pour te sauver toi. C'est le même prix qu'il a fallu que Dieu paye sur la croix pour nous racheter, on l'a chanté tout à l'heure. Que nous soyons un homme, une femme, célibataire, marié, plus ou moins riche ou plus ou moins pauvre, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre statut dans la société, quelle que soit notre position ou que sais-je encore. Comme nous venons de le lire dans Galates 3, ici, nous sommes tous fils et filles de Dieu par la foi en Christ Jésus. Nous sommes un en Christ Jésus. Qu'il est bon d'apprendre à se voir comme Dieu nous voit. Deuxième écueil, donc, notre recherche d'identité dans le regard de la société. J'en arrive au troisième écueil, notre recherche d'identité dans mes réussites. L'être humain a besoin que sa vie ait un sens, que sa vie ne soit pas inutile, que ce qu'il fait soit pertinent pour lui, mais aussi pour les autres, que ça soit durable, pérenne. Et cette recherche, cette quête débouche souvent sur la notion de performance. Est-ce que je suis compétent? Je suis dans la comparaison par rapport aux autres. Il faut réussir, il faut performer selon les critères de ce monde, il faut obtenir un certain statut social, un certain salaire, acquérir une certaine carrière professionnelle, aller de promotion en promotion, avoir des compétences aussi sur le plan physique, sportif, etc. Peut-être que tu as un service dans l'église ou ailleurs, dans une association, quoi que ce soit. Un service auquel tu tiens particulièrement parce qu'il te met en valeur ou même tout simplement parce qu'il donne un sens à ta vie. Et tu vivrais mal de partager ce service avec quelqu'un d'autre parce que tu aurais l'impression de perdre quelque chose d'important pour toi. T'en défaire est même inimaginable. Peut-être, autre exemple, tu luttes avec un complexe d'infériorité. Tu as l'impression d'être la seule personne dans ton groupe relationnel à avoir cette tare. Tu penses que tu ne vaux rien. Tu te crois capable de ne rien pouvoir faire. Tu penses que tu vaux moins que d'autres autour de toi. Tu te sens dévalorisé par rapport aux personnes qui t'entourent, parce que tu n'es pas comme elles. Inversement, tu es peut-être de ces personnes qui se mettent elles-mêmes sur un piédestal, parce que gagnant mieux leur vie, parce que fiers de leur position dans la société, parce que fiers de ce qu'elles ont accompli, parce que fiers de leur voyage, de leurs vacances, de tout ce qu'elles accomplissent tout au long de l'année. Et là encore, le regard que Jésus nous porte peut nous aider à voir les choses autrement. Je lis ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. » Et nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je lis la Bible du Semeur dans la version étude au sujet de ce que dit ce texte ici. Je cite « Le salut provient intégralement de Dieu. Il n'est ni le résultat d'une œuvre humaine, ni la récompense d'un mérite. » Il est le don que Dieu fait à celui qui a foi en Jésus-Christ. Fin de citation. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés sur la base de nos mérites. Mais nous sommes sauvés, comme ce texte le dit dans les versets 8 et 9, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés pour des œuvres, comme le dit le verset 10, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais ces œuvres ne sauraient être le résultat de notre salut. Dieu nous sauve pour qu'on marche, qu'on accomplisse ces œuvres-là. Mais ce n'est pas ces œuvres qui nous garantissent le salut ou qui font que nous sommes sauvés. Gardons-nous de raisonner à la manière du monde, à la manière du mérite, et apprenons à voir avec les yeux de la grâce de Dieu. Troisième écueil, donc, notre recherche d'identité dans mes réussites. Et j'en viens au quatrième écueil, qui n'est pas tant que cela une recherche, mais qui est plutôt la contribution de mon passé, de mon vécu, et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et on sous-estime souvent à quel point les choses que nous avons vécues dans notre vie passée, et peut-être en particulier, pas que, hein, mais ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre adolescence, peuvent avoir un impact important dans notre vie présente. Je veux pointer du doigt peut-être particulièrement les choses qui sont difficiles que nous avons vécues, les circonstances qui ont laissé des traces, les épreuves qui nous ont laissé meurtris, toutes ces choses qui nous ont forgés dans notre caractère parfois trempé, dans nos travers, dans nos luttes, dans nos péchés parfois aussi, etc. Peut-être tu es une personne qui n'arrive pas à te maîtriser. Tu démarres au quart de tour. Tu te mets dans des colères. Tu en veux à ceux qui t'entourent. Tu en as conscience, mais c'est comme ça. Tu as toujours été comme ça. Peut-être est-ce lié à ton éducation, peut-être est-ce lié à des personnes autour de toi, dans ton entourage, oui, qui t'ont donné cet exemple et que tu as pris pour modèle sans t'en rendre compte. Et tu penses que par conséquent, tu le resteras toute ta vie. Tu es et tu demeureras une personne qui a des difficultés à te maîtriser. J'ai pris l'exemple de la colère, ça peut être autre chose. Peut-être tu as subi des violences, des maltraitances dans ton enfance, de la part d'un membre de ta famille ou d'une autre personne. Et tu as du mal à focaliser ton attention sur autre chose que cela, même des années après. Ce sont des blessures qui sont ancrées en toi. Et tu te définis par ce que tu as vécu. Tu penses que si tu as vécu cela, c'est parce que tu le méritais et tu t'en donnes la culpabilité. Aujourd'hui encore, tu penses être coupable alors que tu es victime dans bien des cas. Un autre exemple, peut-être tu as longtemps nourri tes pensées, ton regard, avec des films à un caractère d'érotisme. Et puis ces images, d'abord érotiques, t'ont conduit à des images et des vidéos à caractère pornographique. Et par conséquent, tu te mets à lutter avec des pensées qui sont mauvaises, impures. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu veux lutter et tu retombes toujours dans ces mêmes mauvaises pensées. Et tu es dans cette spirale sans savoir comment t'en sortir. Et on pourrait multiplier les exemples de comment notre vécu nous a conduits à ce que nous sommes aujourd'hui et qui nous donne l'illusion d'une identité. On s'identifie en fonction de ce qu'on a vécu, dans notre passé. On pense que c'est quelque chose qui nous colle à la peau et dont on ne pourra pas se défaire. Est-ce que je suis condamné par mon passé ? Par mon vécu. Je vais vous partager quelques mots de témoignage personnel. Vers l'âge de 8-9 ans, j'ai vécu, disons, de la part de mon entraîneur de football, une certaine forme d'humiliation, en tout cas ce que je décrirais comme telle, une forme d'humiliation, la plupart du temps publique, avec mes coéquipiers à côté. Et c'est quelque chose qui a été répété plusieurs fois et de plusieurs manières sur plusieurs années. Un jour, il a même lancé depuis le banc de touche en plein match. Lionel, t'es qu'un con, t'arriveras à rien dans la vie. J'avais 9-10 ans. Manifestement, la diplomatie n'était pas la première qualité de cette personne. Mais je crois pouvoir dire qu'elle n'a jamais fait cela de manière mal intentionnée. Je pense qu'elle n'imaginait pas l'impact que ça a eu sur moi au moment présent où elle le faisait. Et puis l'impact que ça a eu pendant des années, pendant plus de 2 dizaines d'années, presque 3 dizaines d'années. J'ai longtemps lutté avec des pensées que je n'étais pas capable. Peu après, je suis rentré dans les années collège, qui ont été des années assez compliquées. Et en disant tout cela, je ne cherche absolument pas à excuser telle ou telle chose que j'ai pu vivre ou tel trait de caractère qui ont été le mien, les miens pendant bien des années. Mais simplement, c'est avec le recul que j'ai pris conscience de ce que je traversais. Et quand je suis retombé encore là il y a 3 ans sur mes bulletins de notes du collège ou du lycée, Lionel peut mieux faire. Lionel manque de confiance en lui. Partout, partout, partout. C'est à l'âge de 15 ans, quand j'ai fait la connaissance de Sylvain, qui allait devenir mon meilleur ami, et puis un peu plus tard encore mon beau-frère. Il avait une sœur qui s'appelait Laura. Sylvain m'a fait connaître Dieu. Il m'a offert une Bible, et puis j'ai commencé à la lire. Et puis petit à petit, pendant un cheminement de 3 années, j'ai pris conscience que j'étais aimé par Dieu. Et puis, je me suis converti à l'âge de 18 ans, 19 ans, dans ces eaux-là. Et j'ai pris conscience, petit à petit, que ma valeur était en Dieu et en ce que Jésus avait fait pour moi sur la croix. Mais c'est seulement depuis finalement 10 années que j'ai réussi, avec ce recul, ce travail sur moi-même, et aussi en parlant, à mettre de la distance avec toutes ces mauvaises pensées que j'avais sur de moi-même, toute cette mauvaise opinion négative que j'avais de moi-même. Et on sous-estime souvent à quel point les choses que nous avons vécues dans notre vie passée peuvent nous marquer jusque dans notre vie présente. Mais on sous-estime aussi souvent à quel point le Seigneur peut nous libérer de cela. Et je veux dire par là que rien de ce qui nous a forgé dans notre passé, dans notre enfance, à l'adolescence, à quelque âge de la vie, ne pourrait nous condamner à vivre toujours avec notre culpabilité, avec cette crainte, cette peur, cette lutte avec laquelle on peut vivre. Peut-être tu as vécu des blessures, des meurtrissures, au plus profond de ton cœur, mais j'ai envie de te dire que la guérison est possible. Voici ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Si vous ne reconnaissez pas tout à fait le texte, parce que je l'ai lu dans la Bible du Semeur ici. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui appartenait à notre ancienne vie a passé. Notre système de valeurs, nos priorités, nos croyances, tout ce sur quoi nous avions forgé, ce que nous pensions, nous croyions. le péché a été vaincu, quand bien même il garde encore un certain pouvoir. Et puis, pas seulement ça, mais les choses nouvelles sont venues. Nous vivons maintenant pour l'éternité et non plus pour des choses temporelles. Je vous renvoie à ce qu'on a vu il y a 2 semaines, avec le 2e volet de cette série de prédications. Il s'agit d'une nouvelle approche de la vie. Et d'ailleurs, dans la manière dont cela est dit dans le texte original en grec, toutes choses sont devenues nouvelles ici, ça suggère très fortement que c'est une réalité constante pour le croyant. Ça implique que cette nouveauté de vie, là, elle est un état permanent. Ce n'est pas quelque chose pour un moment, mais c'est permanent. On est une nouvelle création en Jésus-Christ. Et tout ce qui est dit dans ces deux versets, dans ce verset 17, ici, découle de notre union à Jésus-Christ par la foi. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Et le texte continue avec le verset 18 qui dit « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Oui, nous ne sommes pas condamnés à vivre en fonction de notre passé, de notre vécu, parce que l'œuvre de Jésus est pleinement suffisante pour nous extraire de cette spirale. La guérison est possible lorsqu'on se place notre confiance en Jésus-Christ et qu'on apprend aussi à recevoir, à accueillir, à expérimenter, qui sera le sujet de la prédication de dimanche prochain, cette identité en Jésus-Christ. Donc, 4e écueil ici, la contribution de mon passé, de mon vécu, de ce que je suis aujourd'hui et qui me donne l'impression d'être condamné à l'être toute ma vie. Notre identité donc, et je conclus comme cela, n'est pas seulement ce qui est inscrit sur notre carte nationale d'identité ou notre permis de conduire. L'écueil, la plupart du temps, consiste à penser que nous pouvons trouver notre identité ailleurs qu'en Dieu, notre Créateur. Et justement, dimanche prochain, nous verrons plus précisément, plus concrètement aussi, en quoi consiste cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ, comment nous l'approprier et comment l'expérimenter. Amen.